France Musique. Les grands entretiens, Benoît Dutertre.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Gabriel Bacquier. Je suis né le 17 mai 1924 à Béziers, Hérault, 34. Et je suis aujourd'hui personne.
Sans en rien souffler à personne par une porte du jardin, laissant là-bas cette récouronne, je me suis sauvé ce matin. Maintenant je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je viens, je me faufile. Incognito. À toi,
en 1950, vous sortez du conservatoire, vous êtes muni de vos prix. Donc moi, je croyais que quand on était dans cette situation-là, on passait directement dans la troupe de l'opéra comique ou de l'opéra. Et c'est pas ce qui vous est arrivé.
Non, parce que Pinet le prit.
Pardon?
Pinet a fermé le robinet.
Ah, Antoine Pinet, le ministre, il a déterminé un numerus clausus, comme on disait, c'est-à-dire que seulement les premiers pouvaient entrer dans les troupes.
Oui, le premier entrait dans les troupes, j'étais premier. Mais c'est fini, il n'engageait personne.
Il n'engageait plus personne.
Non.
Et c'est donc comme ça...
Donc comme ça que je n'ai pas pu rentrer directement à l'opéra ou à l'opéra comique.
Ou à l'opéra.
Je ne serais-ce qu'à l'opéra comique.
Voilà. Et donc c'est comme ça que vous, effectivement, vous êtes parti.
Je suis parti en Belgique.
Et avant même, je crois, à Bruxelles, vous avez travaillé pour des petites compagnies, notamment vous avez fait de l'opérette, par exemple, à Anzin.
Oui.
C'était quoi ça, alors?
Anzin, à côté de Valenciennes. C'est la ville, si vous voulez, minière, à côté qui est Valenciennes. Et là, il y avait un petit théâtre qui était dirigé par Brouwer. Il a mis le dévolu sur moi en m'entendant dans une audition qui se passe. Les directeurs viennent à un endroit et écoutent des gens comme ça qui ne sont pas encore dans le métier ou très peu pour essayer de monter quelque chose en province.
L'audition des directeurs, je crois que c'est s'appelé comme
oui,
ça.
C'est
on
ça,
les faisait tous
ça.
Venir dans un théâtre.
C'est ça. Alors bon, j'ai fait la connaissance de ce gars-là qui a porté le dévolu sur moi. Et alors... J'ai fait de l'opérette, j'ai fait de l'opéra, en plein air, à l'intérieur, dans les granges. On allait un peu partout dans le Nord. Mais là, j'ai appris mon métier parce que je suis tombé avec des gars qui connaissaient ça sur le bout du doigt. À partir de ce moment-là, ça m'a appris beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont finalement des trucs de métier.
Par exemple
tout un tas de choses. Un autre texte que celui qui est écrit.
Ouais.
Ça, c'est terrible pour un jeune qui sait pas, qui connaît pas bien le métier. Il sait pas où il va.
Ouais, bien sûr.
Il faut qu'il rattrape tout seul.
Pour faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux. Beau cœur et mauvais caractère, se bien battre et boire encore mieux. Et pour fuir toute folle ivresse, on se perdrait notre raison. Comme on change de garnison, il s'y est de changer de maîtresse.
Oh mon Dieu!
Oui, l'abbé, c'est cela, se conduire en vrai mousquetaire. À nous les folles nuits d'ivresse, vins généreux. Cœur sans façon, à nos plaisirs, gloire et maîtresse. Vive l'amour et les chansons.
Vous sortiez du conservatoire, vous aviez quand même étudié le grand chant.
Ça n'a pas servi.
Vous étiez ambitieux, vous aviez quand même l'idée que vous alliez être un grand chanteur à ce moment-là, ou vous étiez, je dirais, un petit peu vexé de faire des opérettes ou de jouer dans des tout petits théâtres dans le Nord?
Pas du tout.
Non.
Non, puis ça me plaisait beaucoup plus que l'opéra.
Ah alors, bon? Parce que c'était du théâtre.
Ah oui, je préférais faire ça que chanter. Si j'avais continué à chanter comme ça, j'aurais eu le voix qui faisait. J'aurais chanté pour 36 théâtres en même temps.
Donc vous n'étiez pas malheureux de faire cette modeste petite carrière à vos
Absolument
débuts?
Absolument pas. Absolument pas, je ne pouvais pas être malheureux. Je m'y plaisais finalement.
D'accord.
Et il fallait apprendre ça, attention. Hein.
Ah oui.
On mettait ça en place dans la semaine, musicalement, chacun se débrouillait de son côté. Mm-hmm. Et puis, le samedi, on répétait dans un bistrot à la porte Saint-Denis. On répétait.
Dans un bistrot?
Oui, dans un bistrot, au premier étage. Et alors, on répétait ça. Et le dimanche matin, on prenait le car qui nous amenait à Valenciennes. On faisait un raccord en arrivant, puis ensuite on allait manger, et à 3 heures on était en scène. Et quand c'était fini, on prenait un petit encas après la représentation, et à 9 heures on était en scène. Et on prenait le car à 2 heures du matin, et on arrivait à 4 heures du matin à Paris.
Vous aviez donc à ce moment-là femme et enfant,
oui.
Et vous habitiez dans quel coin de Paris
Près de la Bastille, boulevard de la Bastille. Voilà, et puis j'étais dans une petite chambre.
Une petite chambre, au sixième.
Où on faisait tout comme ça, sur le gaz, sur un machin. Tout
ça. Ça rapportait et pas grand-chose, les petites opérations.
Ben non, mais ça pouvait pas durer longtemps non plus.
Vous avez également, à ce moment-là, Gabriel Vaquier, joué dans une autre petite compagnie, c'était la compagnie José Beckmans.
Voilà.
Alors qu'il se produisait à Enghien, notamment, je crois.
Pour les choses qui se passaient en France.
Oui.
Mais sinon, on partait surtout en Afrique du Nord.
Dans les théâtres d'Afrique du Nord.
Eh oui. En Algérie, à Oran et au Maroc, où on faisait, je ne sais pas comment ça pouvait intéresser le public, ça. Les voitures versées.
Opéra comique de Boyel-Dieu.
Voilà. Et je faisais Mazetto dans Don Juan. Et lui chantait Don Juan.
José Beckmans,
mais oui.
Le patron de la compagnie.
Oui.
C'était des bons spectacles?
Ah, c'était des spectacles honorables, bien, ouais, bien montés.
Ouais, ouais.
Parce que dès que Beckmans entendait la chose, c'était pas pour faire n'importe quoi. Hein. Attention. Et même s'il y en avait un qui lui reprochait à l'opéra, ben, vous savez, parce qu'il lui disait, si tu n'y arrives pas, comment on fait? Vous chanterez un carton plus loin.
Des œuvres même complètement oubliées déjà, comme nous dites, mais vous étiez bon lecteur, vous qui n'aviez pas fait de piano, Gabriel Vaquier.
Mais non, mais...
Comment vous appreniez les rôles?
J'apprenais avec Madame Barlet.
Avec Madame
qui
Barlet.
Qui était une pianiste qui habitait Paname, à Paris, près de chez moi, à côté de la Bastille, et qui me faisait tout répéter, quoi.
Ah, voilà.
Et j'attendais pour la payer d'avoir touché un cachet, évidemment.
Ah oui.
Elle réclamait pas, c'était une brave femme qui se tenait bien à sa place et tout ça, et qui était très contente de me faire travailler. Je voyais le plaisir qu'elle prenait, et moi j'avais beaucoup de plaisir aussi, parce que c'était une personne qui me voulait du bien.
Fallait pouvoir lire la musique, et puis fallait avoir une bonne mémoire aussi, ça allait de ce côté-là aussi.
Ah oui, mais alors si vous n'avez pas ça, vous faites pas le métier. Hein.
Oui, voilà, d'accord.
Oui.
Alors là, on est donc au début des années 50, hein, voilà, dans ces différentes aventures. Et puis donc finalement, vous êtes recruté d'abord à la troupe de la Monnaie de Bruxelles en 1953.
Ouais.
Et donc là, tout d'un coup, vous avez pour la première fois un vrai emploi, quoi.
J'ai pu m'éclater là, ouais. Parce que je suis rentré vraiment dans le vrai répertoire. On m'a fait faire beaucoup de choses qui ne m'ont pas servi par après du tout. Hein, mais, ouais. Mais au moins, je faisais du répertoire, du répertoire, du répertoire. La Monnaie a fait de moi ce que je suis devenu ensuite.
La Monnaie de Bruxelles, donc, c'est une troupe de chanteurs qui chantent principalement en français.
Hein. Oui, oui, oui,
voilà.
Oui.
Un répertoire qui mêlait celui de l'opéra et celui de l'opéra comique, d'une certaine façon.
C'est ça, il y avait un peu de tout. Bon, chaque année, évidemment, ça changeait, parce qu'il fallait avancer. Mais quand j'ai mes 3 ans, et je chantais, je me rappelle, Les Pêcheurs de Perles, à ce moment-là, avec Martin Gélichy, qui est venu chanter quelques représentations à la Monnaie. Et c'est là où elle m'a entendu, et elle a dit, mais Gabriel... Vous voulez rester ici ou vous voulez venir avec moi à l'Opéra Comique? Je me suis pas fait répéter 3 fois.
Les grands entretiens de Gabriel Baquier, France Musique.
Vous nous avez dit que c'est Martin Angelici qui va vous conduire jusqu'à l'Opéra Comique, finalement. Il faut rappeler qui était Martha, cette merveilleuse chanteuse. Moi, je ne la connais que par le disque, mais qui était Martha Angelici.
Oui.
C'était une Corse, hein.
Oui.
Elle a d'ailleurs chanté des chants corses.
Et alors, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez venir à Paris, je me charge de tout. Mon mari vient d'être nommé à l'Opéra Comique.
Directeur de l'Opéra Comique.
Directeur.
Hein. Il s'appelait François Agostini.
Agostini. Et vous passerez cette audition, et ensuite nous attendrons l'arrivée de M. Hirsch, qui doit être nommé beaucoup plus tard directeur des théâtres lyriques nationaux.
Voilà, Georges Hirsch, hein, le père de Georges François Hirsch, qui était un homme très puissant dans le monde de l'opéra à l'époque.
Alors, voilà. Voilà. Alors, c'est ce qui s'est passé. On a suivi le processus. Et puis voilà, je suis rentré à l'Opéra Comique officiellement. Pas à l'Opéra, à l'Opéra Comique.
À l'Opéra Comique.
Parce que M. Hirsch disait que les chanteurs qui chantaient à l'Opéra Comique n'étaient pas faits pour chanter à l'Opéra. Ils s'étaient mis ça en tête, pourquoi pas. Non. Seulement un jour, ils sont venus me chercher.
Pour aller à l'Opéra. Mais alors restons d'abord un petit peu à cette salle Favart, où il y avait donc toute une troupe à l'époque. Hein.
Ouais.
Mais ça devait être une espèce de ruche, parce qu'elle est toute petite, la salle Favart. Il y a très peu de dégagement, tout est en hauteur. Vous viviez tous là-bas, si on peut dire, entre les ateliers, la scène, les répétitions, dans une espèce d'atmosphère qui devait être
c'est
très...
C'est merveilleux.
Oui.
Je n'ai pas connu mieux. Ça m'a laissé une impression de famille. Alors, évidemment, il y a toujours des intrigues. Hein, un qui envie l'autre, ainsi de suite. Pourquoi c'est lui qui chante ça et pas moi, hein, je dis, bon, mais ça, c'est pas grave.
Mais les rôles tournaient, puisqu'il y avait énormément d'opéras au répertoire. Et donc, par exemple, pour le fameux Barbier que vous n'aimiez pas beaucoup, il y avait Michel Danse, il y avait Robert Massard, qui devait être parmi vos amis, j'imagine.
Exactement.
Et vous-même, parfois, oui, également, oui.
Mais d'accord, finalement.
Ouais.
Ça s'appelle spectacle par alternance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour dans la semaine où vous chantez le même ouvrage.
C'est ça, c'est complètement
c'est
différent.
Tous les jours, ça change. Alors, ça peut revenir la semaine après, mais écarté d'une semaine.
C'est complètement différent de ce qui se fait aujourd'hui, évidemment.
Tout ça, ça met une ambiance. Uh-huh. Ça me confortait, je sais bien.
Gabriel Baquet, vous avez chanté alors évidemment énormément de rôles hein, à Favart. Je crois que vous avez commencé dans Madame Butterfly.
Oui, j'ai commencé là-dedans, mon cher. Oui, oui, je remplaçais Bourdin.
Roger Bourdin.
Voilà.
Grand chanteur aussi.
Et il s'arrêtait. Je ne remplaçais pas parce qu'il était mal.
C'était la fin de sa carrière.
Il s'arrêtait.
Ouais.
Il avait fini. Et je chantais avec sa femme, Géori Boué.
Avec Géori Boué, voilà. Vous avez chanté L'Orphée de Gluck aussi dans ces années-là, beaucoup.
Ah, mais ça, L'Orphée de Gluck, ça a été monté à l'Opéra Comique. Et ensuite, nous l'avons baladé un peu partout. Nous sommes partis avec ça au Liban, dans les ruines de Baalbek. Et là, il fallait que nous mangions de la... pas de la courge, mais de la... pour avoir de la salive.
Ah oui.
Parce que le vent qui passait sur les pierres, comme ça, soulevait tout le sable, n'est-ce pas ? Et ça nous donnait soif, une espèce de melon blanc. Alors, on mangeait ça, et ça nous faisait une espèce de pâte qui remontait comme ça, sous le long du tube digestif, et qui venait nous faire...
stimuler les glandes salivaires.
Oui, saliver.
Voilà.
Saliver. Il faut penser à tout.
Il faut penser à tout. On dit parfois qu'il y avait un public particulier à l'Opéra Comique, les fervents amoureux du chant et du répertoire qui venaient là. Vous avez senti, vous, que c'était vraiment un public spécial
à
Favart ?
C'était vraiment ça. Et ils venaient vraiment pour un artiste. Ils aimaient et ils faisaient la claque sans qu'on leur demande.
Vous n'étiez pas encore vedette, vous, à ce moment-là ?
Ben si.
Déjà ?
Je le suis devenu, au fur et à mesure.
Et vous avez gardé de cette époque des camarades, aujourd'hui encore, comme Robert Massard, par exemple ?
Oui. On a fait beaucoup de choses avec Banzo.
Alain Banzo, oui. Liliane Berthaud. Oui.
Liliane. Et puis, beaucoup de choses aussi avec Xavier Depaz. Et Xavier Depaz faisait énormément de choses avec nous. Sirotait beaucoup. De la bière, hein. Il allait à la bière. Lui. Il avait le sens du théâtre, lui aussi. Il avait tout ça. Il avait cette façon désinvolte, un peu comme Santana, de jouir de la vie. Et le théâtre, pour eux, c'était avant tout jouir de la vie. Ils jouissaient en chantant. C'était leur propre vie qui passait au travers.
Dans ces années-là aussi, de la troupe de Bruxelles et de la troupe de l'Opéra Comique, Gabriel Baquet, vous avez commencé à enregistrer des disques chez Decca.
À Bruxelles.
Ça a commencé à Bruxelles, voilà, oui. Et vous en avez fait un certain nombre. Comment vous aviez été repéré par la maison Decca? Ça a commencé par Le Chant du Désert.
Oui, c'est ça.
Opérette américaine.
Ah oui, oui, Le Chant du Désert de Romberg.
L'idée, c'était de vous faire chanter le répertoire d'opérette, les rôles de baryton d'opérette.
Oui,
c'est ça. Avec La Fille de Madame Angot, avec Les Mousquetaires au Couvent, etc., etc. Hein.
Oui.
Alors, vous nous avez dit, justement, donc, que Monsieur Hirsch, comme on disait à l'époque, ne voulait pas qu'on passe de l'opéra comique à l'opéra, Garnier, mais finalement, vous, on est venu vous chercher pour aller chanter à Garnier Rigoletto, je crois.
Oui, hein. C'est ça. Beckman, je téléphone. Parce qu'il était directeur de la scène.
À l'Opéra de Paris. José Beckmans, avec qui vous aviez tourné dans cette petite compagnie, voilà. En Afrique du Nord, etc.
Alors, il me dit, « Allô, Gabriel ? » ?»« Oui. » ?»« Écoute, c'est José Beckmans, là. »« Ah bon ? Bonjour, maître, comment allez-vous ? » Ce soir, tu chantes Rigoletto à l'opéra. Et oh, je fais comment? Il me dit, oh, c'est pas compliqué. Tu viens en 3 heures. Tu essaies ton costume. Après, tu répètes avec Forestier.
Louis Forestier, hein, oui, qui était Forestier. un grand chef d'orchestre.
C'était lui qui dirigeait. Après, tu prends ton repas, tu fais ce que tu veux. À 8 heures, tu rentres en scène. Pourquoi je te donne ça? Parce que je t'ai donné la permission la semaine dernière d'aller chanter Rigoletto en province. Et je sais que tu chantes ça maintenant facilement, en français, hein, en français.
Ouais. On chantait de toute façon tout le répertoire italien en français à l'opéra comique, oui, oui. Et à l'opéra.
Oui. Alors tu vas le faire. Et je te donne finalement une occasion de rentrer dans la maison.
Là, on est donc en 1958, ouais. Et donc vous arrivez dans la grande boutique.
Après, ils n'ont pas cessé de m'appeler.
Voilà.
Parce qu'ils m'ont appelé pour faire Valentin.
Dans Faust.
Et puis...
dans les Indes Galantes, la grande production de l'époque, vous avez produit également. Voilà. Mise en scène par Maurice Lehmann.
Dans Juin, en français, et ainsi de suite. Ça a fait boule de neige comme ça. Et un jour, je me dis, finalement... Je chante plus à l'opéra qu'à l'opéra comique. Ça vous fait rien de m'inscrire dans la troupe de l'opéra? Ils ont fait, pas de problème.
Courtisan, va savoir, et t'aller, l'autre et moi, ma fille fortuée. C'est du ciel, elle est abandonnée. Son père à moi, il reste encore. Ô Tridor, ô Tivant des beaux âmes, ô Riez, de cette fratrice infâme, mais sachez que l'honneur de nos femmes est pour nous le plus.
C'est donc à l'Opéra de Paris aussi que vous avez commencé à vous produire avec des grands, plutôt des grandes d'ailleurs, partenaires. Par exemple, la Tebaldi en 1960,
oui.
Dans la Tosca.
Le rattachement de la Savoie à la France.
Voilà. C'était pas votre premier Scarpia?
C'était mon premier Scarpia en italien. Et voilà, la chance m'a été donnée avec elle aussi, finalement, comme ça, il fallait pas trop la toucher. Parce qu'elle était très fragile, je pense qu'elle avait, enfin, elle avait des entournures un peu fragiles. Uh-huh. Bon, alors, il fallait pas que je la touche trop, que je la bouscule. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait semblant, et ainsi de suite.
La question du répertoire italien en français ou en italien, ça se posait pas beaucoup à l'époque, à l'opéra comique. Mais on commençait à chanter en italien à l'opéra.
Oui, mais j'ai fait là-dessus des petites conférences comme ça après le spectacle aux habitués pour leur faire comprendre que c'était mieux, ils étaient nettement mieux musicalement et vocalement de chanter dans la langue originale. Puis après, c'est venu naturellement.
C'est devenu une habitude,
fait que ça,
bien sûr. Mais c'est parce que notamment, dès vos débuts à l'opéra comique dans le Barbier, vous détestiez la version française en fait.
Mais elle n'est pas facile à chanter. Tu vas voler. Bella città, bella città. C'est autre chose.
Ça a plus d'allure, oui, je comprends. Bon.
Dolce la speranza, e nel suo cuore.
La favorite de Donizetti, enregistrée en 1978 avec bien sûr Gabriel Baquier, sous la direction de Richard Boninge. On a rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ces grands entretiens. Équipe de réalisation Sandrine Malon, Pierrick Charles, Flora Sternadel, Perrine Mingui. Et puis vous trouvez tous les renseignements et le podcast de ces grands entretiens sur francemusique.fr.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.